Où ai-je mis les clés? Le pain y était dans le frigo avec le beurre? Où ai-je ma tête? S'il ne peut répondre à ces questions, notre invité a sûrement les moyens de nous aider à y répondre. Nous recevons lors du Capitole du Libre Adrien van der Bosch, maître de conférence à l'UT de Blagnac et chercheur au laboratoire IRIT, ainsi que Nicolas Gonzalez, professeur doctorant à l'UT. CPU, carré, petit utile. Vous présentez une nouvelle technologie de localisation des objets en indoor, donc dans des espaces clos, sur des petites distances. Pourquoi cette technologie?
Alors en fait, on ne présente pas une technologie, on fait des travaux de recherche pour essayer de trouver des solutions matérielles et logicielles qui vont permettre de localiser des objets connectés dans un environnement intérieur.
Adrien van den Bosch.
Pourquoi en intérieur? Parce qu'en extérieur, le GPS marche très bien. Donc le GPS, qu'on appelle le GPS, c'est un système de réception basé sur des satellites qui permettent de récupérer une position sur tout le globe terrestre. Le problème du GPS, c'est que quand on est à l'intérieur d'une maison, quand on est dans un bâtiment, quand on est dans un parking souterrain, il marche pas. Le GPS, il marche pas. Et donc, on a besoin de solutions alternatives pour arriver à localiser des objets connectés en intérieur.
J'interviens avec Adrien dans le cadre de cette thématique de recherche.
Nicolas Gonzalez.
Et on crée tout un tas d'outils logiciels et matériels pour faire des démonstrations et pour étudier ces technologies-là. Donc aujourd'hui, c'était le cadre de cette présentation, de montrer à tout le monde les avantages et les inconvénients globalement de cette technologie-là.
Comment est-ce qu'on mesure des distances? Comment est-ce qu'on repère un objet en utilisant des ondes?
Il y a plusieurs façons de localiser un objet en utilisant les ondes radio. Je vais en présenter deux. Une première façon relativement simple, qui est la même chose que la voix humaine. Quand vous entendez quelqu'un fort, c'est que vous êtes près de lui. Quand vous l'entendez de façon plus lointaine, de façon plus faible, c'est qu'on est effectivement plus loin. Donc en se basant sur la force du signal radio qui est reçu, par exemple en Wi-Fi, lorsque j'ai toutes les barres sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable, quand j'ai toutes les barres, c'est que je suis assez proche de la station de base et donc je peux faire l'hypothèse que mon objet est à côté de cette station. Donc si je connais les coordonnées de cette station, je peux affirmer que je me trouve par ici, dans ce coin-là, assez près de cette station de base. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est de mesurer ce qu'on appelle le temps de vol radio, c'est-à-dire le temps que met le signal pour atteindre une destination. C'est-à-dire qu'entre le moment où le message est émis sur le réseau sans fil et le moment où il est reçu, le temps mis pour propager le signal est proportionnel à la distance. Et comme on connaît la vitesse de propagation, qui est la vitesse de la lumière, on peut en déduire la distance qui sépare les deux objets. Cette deuxième méthode est plus fiable que la première, tout simplement parce que si je me reviens sur la voix humaine, si je parle à quelqu'un derrière un mur, ma voix va être atténuée et la personne va me recevoir moins fort. On m'entend un peu moins fort. Il y a un obstacle devant moi, entre moi et le micro. Et donc, du coup, de ce fait, la personne croit qu'elle est loin de moi, alors qu'en fait, elle est juste à côté, mais il y a juste un obstacle entre nous deux. Voilà. Et donc, cette façon est du coup un petit peu moins fiable que la façon partant de vol radio.
Quand on est un petit capteur, un appareil, un porte-clés, un téléphone, comment est-ce qu'on découvre le monde quand on est un capteur?
Oh, c'est une très bonne question. Quand on est un capteur, on va dire qu'on est un capteur connecté, c'est-à-dire qu'il y a une interface réseau qui est associée à ce capteur, le capteur va écouter ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire les ondes qu'il reçoit. Il va ouvrir grandes ses oreilles, il va écouter l'environnement et il va essayer d'entendre d'autres capteurs comme lui qui, eux, connaissent leur position. Et c'est grâce à ces capteurs qui connaissent leur position que lui va pouvoir se faire une idée, soit en utilisant l'atténuation du signal, soit en utilisant le temps de vol radio. Dans la maison connectée, il y a des équipements électroniques qui émettent des ondes qui vont a priori pas bouger, Ce serait le cas d'un frigo, par exemple, un frigo intelligent, un frigo avec du Bluetooth, par exemple, voilà, qu'on va poser dans la cuisine, on va l'installer à cet endroit-là, il ne bougera pas. Bon, ben, ce capteur-là, cet élément, cet objet connecté-là, peut faire une référence pour tous les autres objets qui sont dans la maison. Il suffit d'en avoir 3, comme lui, pour faire des références qu'on appelle des ancres, c'est-à-dire des références en termes de localisation, qui ne bougeront pas et qui pourront permettre à d'autres objets connectés mobiles, qui eux ne connaissent pas leur position, de pouvoir se localiser.
Un capteur qui découvre le monde, il le découvre en référence avec un référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on appelle la localisation ? Est-ce que c'est savoir où je suis sur la Terre ? Est-ce que c'est savoir où est-ce que je suis dans une maison ? Est-ce que c'est savoir à côté de quoi je me trouve ? Est-ce que c'est savoir est-ce que je suis entre deux choses connues ? Voilà, la localisation est une thématique quand même assez ouverte. Si on regarde par exemple le GPS répond à la localisation où est-ce que je suis sur la Terre en extérieur, globalement. Un capteur communicant, suivant son application, il faut se poser la question, voilà, pour moi, qu'est-ce que la localisation ? Ça se trouve avoir une coordonnée X, Y, Z dans l'espace, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à votre application. Peut-être qu'il faut se poser la question, voilà, dans mon usine, où est-ce que se situe mon outil ? Ou par exemple, est-ce que mon outil se situe dans cette usine-là ? Voilà, c'est toutes ces thématiques-là qui vont être, en fait, qui vont être très très importantes pour un utilisateur à capter, parce que ça va vraiment influencer le choix de la technologie. Nous, la technologie qu'on a présentée aujourd'hui, c'est une technologie qui répond à la question où est-ce que mon objet se situe très précisément. Avec une infrastructure, donc peut-être plus forcément déployée en indoor, mais enfin tout est possible et on travaille justement sur les thématiques pour ouvrir cette technologie à d'autres cas d'application. Voilà. Donc, ce qui est important, je pense, de se poser comme question en premier lieu, c'est pour moi, pour mon application, qu'est-ce que la localisation et qu'est-ce que je cherche à faire. Et quand on voit, par exemple, des entreprises qui viennent nous voir en nous demandant « je veux localiser mes objets », la première des choses qu'on leur demande, c'est voilà, où c'est que vous voulez les localiser, comment vous voulez les localiser, quelle est la précision, est-ce que c'est sur batterie, pas sur batterie. Voilà, vous voyez tout cet ensemble de choses qui vont au final définir quelle technologie on utilise.
Il y a peu de chances en fait qu'on... Enfin, il y a une différence entre vouloir localiser un colis qui va traverser la France et son trousseau de clés dans la maison.
Voilà.
Sauf à avoir oublié son trousseau de clés dans le colis, mais ce serait dommage.
C'est ça. c'est ça, oui. Là, il y a en plus la problématique de si votre capteur ou votre objet est mobile, il faut aussi définir sa zone de mobilité. Est-ce que c'est un capteur qui va bouger dans une usine ? Est-ce qu'il va bouger en France ? Est-ce qu'il va bouger sur un continent ? Est-ce qu'il va bouger au réseau mondial ? Là, encore une fois, ça va pas du tout être les mêmes problématiques en termes de technologie. Et je pense qu'il faut, en amont de choisir une technologie plutôt qu'une autre, il y a ces réflexions à avoir qui sont très très importantes.
D'accord. On a parlé brièvement des obstacles. Comment est-ce que les technologies de localisation réagissent aux obstacles ? Parce que un objet, il peut être dans la salle de bain fermée, il peut être à l'étage, il peut être à la cave. Dans quelle mesure on peut traverser les obstacles ? Dans quelle mesure ça réagit aux obstacles ?
Alors en fait, les obstacles, c'est vraiment un gros problème.
Adrien Van den Bosch.
Effectivement, c'est ce qui va vraiment nous embêter. Les obstacles, ils introduisent de l'erreur. Donc la mesure de la distance va être erronée par la présence de l'obstacle. Parce que l'obstacle, c'est un matériau qui ralentit le signal radio. C'est-à-dire que la vitesse de propagation dans le matériau est plus lente que dans l'air. En général, elle va rarement plus vite que dans l'air, donc elle est ralentie. Et donc, comme le système ne sait pas qu'il y a eu un obstacle, il applique bêtement, il fait bêtement la multiplication avec la vitesse de propagation qu'il pense être la bonne. Et donc, la distance est surestimée. Donc, quand on a des surestimations de distance, et c'est souvent à cause de ça. Ça, c'est dans le cadre du temps de vol radio. Dans l'atténuation, l'obstacle va atténuer le signal et donc va faire en sorte là aussi que, le récepteur entend le signal moins fort, il croit qu'il est plus loin. Alors quand j'ai dit ça, j'ai fait un constat. Maintenant, il faudrait essayer de trouver des solutions. Il y en a. Dans le temps de vol radio, en général, l'obstacle peut être contourné. C'est-à-dire que le récepteur ne reçoit pas qu'une seule copie du message, il en reçoit plusieurs qui ont mis plus ou moins de temps à arriver parce que le signal a contourné l'obstacle. Donc il a fait un petit détour OK? Et ce signal peut arriver plus fort que le signal direct. Et donc, dans ces cas-là, le récepteur peut être en mesure de détecter qu'il y a un obstacle. Et comme il a connaissance de l'obstacle, eh bien, il peut essayer de corriger en se disant, tiens, là, la distance que je viens d'avoir, elle est surestimée, probablement. Donc, je la réduis, je la corrige pour essayer de compenser cet obstacle.
Nicolas González.
Les technologies qu'on présente aujourd'hui, qui sont des technologies de réseaux de capteurs, on déploie des réseaux de capteurs communicants qui dialoguent entre eux. C'est quelque chose qui est assez innovant par rapport au GPS, parce que le GPS, en gros, c'est les satellites qui envoient des signaux diffusés sur la Terre, qui sont reçus par des objets sur Terre. Et on vient calculer des différences, je passe les détails, entre ces différents satellites. Donc en fait, les obstacles qui peuvent apparaître, c'est vraiment intérieur ou extérieur. Si je suis à l'intérieur, vu que les satellites sont dans le ciel, je ne perçois pas les satellites. Si je suis en extérieur, je peux voir des satellites. Donc je dirais, c'est plutôt binaire. C'est soit j'entends le satellite, soit je ne l'entends pas. Nous, comme on déploie des capteurs en intérieur ou en extérieur, tous les cas de figure arrivent. C'est-à-dire, j'entends l'objet, je l'entends pas très bien. Il m'envoie une information, mais elle est erronée. Voilà, on a vraiment beaucoup plus de diversité qu'au niveau GPS. Et ça nous oblige à créer des nouveaux algorithmes avec des indicateurs de confiance qui nous permettent de dire, OK, j'ai reçu l'information de ce capteur-là, mais quelque chose me dit que c'est pas quelqu'un de confiance. Donc, je vais soit ignorer ce qu'il dit, soit essayer de le corriger. Donc voilà, c'est quelque chose qui nécessite des algorithmes un peu différents de ce qu'on a l'habitude dans le monde du GPS, je pense.
On va revenir sur les usages. Quelle utilité, évidente ou non, on peut trouver déjà pour le grand public, pour ces technologies? On a l'exemple du trousseau de clés, mais j'imagine que c'est pas la seule.
Il y a beaucoup de solutions techniques de télécommande qui ont été initialement pensées pour des personnes en fauteuil roulant, par exemple. La télécommande de la télé, c'est exactement ça. Ça a été inventé pour que des personnes en perte de mobilité puissent changer les chaînes de la télévision sans avoir à se lever. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde a une télécommande. Qui achèterait une télé sans sans télécommande? Bon, qui achèterait encore une télé? On peut se poser la question, mais... ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, la localisation des objets connectés, ça ouvre plein de possibilités pour des personnes qui sont en situation de handicap. Parce que la maison connectée va pouvoir avoir l'information de la localisation de la personne dans cette maison et elle va pouvoir lui faciliter la vie. Par exemple, une personne qui n'a pas l'usage de ses bras, qui souhaite allumer la lumière au-dessus de lui, va pouvoir demander par une commande vocale, par exemple, allume la lumière. Mais si la maison ne sait pas où se trouve la personne, la maison ne saura pas quelle lumière allumer. Et donc avoir une information comme ça de localisation permet pour la maison de prendre des décisions qui soient les plus pertinentes possibles et qui vont simplifier la vie de l'habitant de la maison, pour l'exemple que je viens de donner.
CCPU, l'émission carré, petit, utile. Et nous sommes au Capitole du Libre avec Adrien Van Den Bosch et Nicolas González pour parler de la localisation des objets en intérieur. Pour la localisation des objets en intérieur, vous utilisez quel protocole, sur quelle technologie expérimentale vous travaillez et en quoi elle se différencie de ce qu'on peut avoir au quotidien, le Wi-Fi ou le Bluetooth par exemple? Adrien Van Den Bosch.
La technologie qu'on utilise, c'est l'Ultra Wideband, c'est l'hyper-étalement de spectre, UWB. C'est une technologie de réseau sans fil qui va permettre de faire des mesures très précises, temporelles, pour mesurer le temps de vol radio. En fait, c'est une, par rapport au Wi-Fi ou au Bluetooth, c'est une technologie qui émet sur un très large spectre radio, ce qui va permettre, en utilisant ce spectre très large, d'être très précis dans le temps, puisque quand on est très large en fréquence, on est très précis dans le domaine temporel. Quand on est large dans le fréquentiel, on est très petit dans le temporel. Ce qui va permettre de matérialiser très précisément des claps, un signal suffisamment court, suffisamment instantané, pour être très précis pour lancer le chronomètre qui va ensuite être utilisé pour mesurer le temps de vol. Donc on a besoin d'un clap côté émetteur, l'objet connecté qui envoie le message, et un autre clap côté récepteur, l'objet connecté qui reçoit le message. Le clap, il est dans le message, bien entendu. C'est pas un deuxième clap, c'est le clap lorsqu'il est reçu par le récepteur. Et c'est cette différence de temps, c'est ce temps qui passe entre les deux claps que l'on cherche à mesurer pour retrouver la distance. Si on voulait faire la même chose en Bluetooth et en Wi-Fi, on n'aurait tout simplement pas la même précision sur le clap. Et donc, on aurait une mesure de distance qui serait moins précise, qui serait un petit peu plus lâche. On pourrait avoir des précisions de l'ordre peut-être de la dizaine de mètres ou de la centaine de mètres, c'est-à-dire pas suffisant pour de l'intérieur, puisqu'on a besoin en intérieur d'avoir des précisions autour du mètre ou en dessous. On utilise les gammes de fréquences comprises entre 3,5 et 6,5 GHz. Donc on est au-dessus des fréquences de Wi-Fi et de Bluetooth qui sont à 2,4 GHz ou au cœur, autour de la bande des 5 GHz qui est utilisée aussi en Wi-Fi.
Une question qui se pose quand on regarde l'existant, c'est la consommation électrique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les systèmes de porte-clés actuels, souvent c'est du Bluetooth, on fait sonner le porte-clés quand on l'a peur. Et ça demande effectivement de laisser le Bluetooth activé sur le téléphone, ça demande d'avoir une pile plate dans le porte-clés. L'UWB, en termes de consommation électrique, est-ce que ça vous simplifie les choses ou est-ce que ça les complique ?
Non, je dirais que c'est à peu près comparable. L'UWB consomme beaucoup d'énergie, parce que le récepteur est une vraie petite usine qui va faire du traitement du signal en continu. Donc c'est un petit processeur qui calcule beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc il va consommer beaucoup d'énergie. Il va aussi travailler très vite, parce que pour mesurer des temps de vol au niveau de la vitesse de la lumière, à l'échelle de la vitesse de la lumière, il faut mesurer des temps de vol en dessous de la nanoseconde, c'est-à-dire en dessous du milliardième de seconde. Donc c'est vraiment des temps qui sont extrêmement courts. Et donc on a des petits ordinateurs qui vont très très vite à l'intérieur de nos objets connectés. Par contre, comme c'est des transmissions réseau plutôt haut débit et que les messages sont relativement courts, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de laisser le récepteur allumé en permanence. On peut faire ce qu'on appelle des protocoles à rendez-vous, c'est-à-dire que les récepteurs vont prendre rendez-vous avec l'émetteur pour pas attendre bêtement un message qui n'arrive pas et de ce fait économiser de l'énergie. Mais je dirais que l'ordre de grandeur est à peu près le même, peut-être même un petit peu plus important en absolu, mais comme on a des hauts débits, on va pouvoir réduire le temps et donc réduire l'énergie. La localisation, elle peut se faire en quelques millisecondes, en quelques millièmes de seconde. Et elle a besoin pour arriver à une localisation, on a besoin d'aller interroger plusieurs objets connectés de l'environnement pour avoir plusieurs distances. Et donc, voilà, moyennant le nombre de mesures à faire, on est autour de la dizaine, de la douzaine de millisecondes.
Nicolas Gonzalez.
Quand on parle d'économie d'énergie, on parle de batterie, parce que quand on est branché sur le secteur, il n'y a pas de notion d'économie d'énergie. Donc là, dans le cadre du porte-clés, par exemple, il faut regarder en quoi est constitué le porte-clés. Alors, il est constitué d'une batterie, justement, d'un petit processeur et d'une radio, globalement. Peut-être d'un bouton, mais ça ne consomme pas énormément. La notion d'économie d'énergie, ça veut dire qu'une fois qu'on a rempli notre batterie avec une certaine dose d'électrons, on va dire, d'électricité, on va chercher à utiliser le minimum d'énergie dans le temps pour que ce réservoir puisse durer très, très longtemps. Donc, dans les composants, il y a deux composants qui vont consommer de l'énergie, le processeur d'un côté et la radio de l'autre. La radio, les processeurs aujourd'hui ont un mode de veille, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'endormir, ils font plus rien et ils dorment. Et dans ce mode de sommeil, ils consomment très 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 peu d'énergie. L'ordre de grandeur d'un processeur qui dort sur une batterie à peu près standard, par exemple pour un porte-clés, on peut imaginer aller, suivant la techno de batterie qu'on utilise, jusqu'à 10 ans globalement. Voilà. Au niveau du processeur, il n'y a pas vraiment de problème. La radio consomme énormément. Et dans les radios, il y a principalement deux modes. Le mode transmission, c'est-à-dire que la radio transmet un message, et le mode de réception, où elle ouvre ses oreilles et elle attend qu'un message arrive. Et le troisième mode, c'est pareil, un mode de sommeil. Donc le but pour optimiser la batterie, ça va être de dormir le plus longtemps possible. Le problème, c'est que quand on dort, on n'est pas capable ni d'émettre ni de transmettre des messages. Dans le cadre du porte-clés, c'est pas le porte-clés qui va se rendre compte qu'il est perdu. Ça va être l'utilisateur qui est loin du porte-clés et l'utilisateur va déclencher un ordre pour retrouver le porte-clés. Et le problème, c'est que si le porte-clés dort et ne cherche pas à se réveiller de temps en temps pour collecter cet ordre de commande, et ben, il ne va pas recevoir les messages et donc on ne va pas être capable de l'activer à distance. Voilà. Donc, pour rendre ce cas d'usage possible, il faut que de temps en temps le porte-clés se réveille, rouvre ses oreilles, attende un petit moment pour voir s'il y a un message qui arrive, referme les écoutilles et se rendorme. Voilà. Et donc, on voit, ça fait, il y a des cycles en fait, de réveil et d'endormissement. Et la durée de ces cycles va être tout à fait dépendante en fait, de la capacité de la batterie et donc de l'autonomie qu'on va avoir dans le temps. Donc, plus on veut être réactif, plus il faut se réveiller souvent, mais plus on va avoir une autonomie qui va être limitée.
C'est comme pour un humain, moins on dort et plus on est fatigué.
C'est ça.
Concrètement, comment on utilise ces temps de vol dans un algorithme, j'imagine, pour calculer la localisation d'un objet précisément ?
Alors, comment il est utilisé, le temps ? Le système va collecter les temps de vol, il va calculer, il va déterminer des distances, connaissant la vitesse de propagation. Et ensuite, il va donner ces informations à un algorithme de localisation qui va permettre de prendre, à partir de ces distances, de déterminer une position en deux dimensions, en 2D ou en 3D, en fonction de l'objectif que l'on recherche. L'algorithme le plus simple, c'est la trilatération, qu'on appelle souvent triangulation, mais c'est plutôt une trilatération parce qu'on est sur des distances, c'est pas sur des angles. En fait, la trilatération consiste à trouver le point d'intersection entre différents cercles. Alors, on est à la radio, donc c'est pas forcément très simple à voir, mais je vais essayer de le décrire. Disons qu'on a un objet mobile qui cherche à se localiser par rapport à trois ancres, donc à trois nœuds dont on connaît la position. Ces trois nœuds dont on connaît la position, on est capable de les dessiner sur un plan avec leurs coordonnées, x et y. Et comme l'objet mobile peut mesurer la distance qui le sépare de ces trois ancres, eh bien, il va pouvoir tracer trois cercles qui sont centrés sur les ancres et qui, normalement, si tout allait bien dans un monde parfait, ça n'arrive jamais, mais dans un monde parfait, les trois cercles se croisent pile à l'endroit où se trouve le mobile. Et donc, le mobile peut dire, ben voilà, je cherche le point d'intersection de trois cercles, il fait les maths et puis il arrive à trouver la position d'intersection de ces trois cercles, donc sa position à lui. Pourquoi je dis que ça, c'est dans un monde idéal ? Parce qu'en fait, en vrai, ça ne passe jamais comme ça. Tout simplement parce que les cercles ne sont pas les bons. Ils sont bien centrés sur l'angle, ça, c'est pas un problème. Mais la distance, elle est toujours un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite parce qu'il y a une erreur de ranging, un petit peu trop grande parce qu'il y a des obstacles, un petit peu plus petite parce que y a un problème dans la mesure, tout simplement. Et donc du coup, ces trois cercles, comme ils se croisent pas au même endroit, en un même point, et en fait on a plusieurs solutions candidates dont on sait qu'elles ne sont pas parfaites. Et donc il faut, au-delà de ça, trouver une position unique. Alors là, il y a plein de techniques qui existent. On peut essayer de faire un petit triangle entre ces trois positions candidates et déterminer le barycentre, c'est-à-dire le centre géométrique de ce triangle. On peut également faire des algorithmes un petit peu plus complexes. Celui qui a été présenté aujourd'hui au Capitole du Libre consiste à se rapprocher progressivement de la solution finale. Il y a d'autres solutions qui existent. Celle qui a été présentée au Capitole du Libre aujourd'hui, elle se base sur un principe qui consiste à initialiser la position du mobile un petit peu n'importe tout, de prendre ces fameux cercles et d'essayer de s'approcher progressivement par un calcul itératif, c'est-à-dire on va pouvoir recommencer plusieurs fois et comme ça converger vers une position qui serait la plus probable possible en fonction de l'algorithme dans lequel il faudrait vraiment rentrer dans le détail pour bien comprendre. On va pas le faire maintenant, mais on pourra en reparler une autre fois ou à travers une publication, puisque au laboratoire on publie les travaux sous forme d'articles scientifiques.
Les slides de la présentation vidéo seront mis en lien sous l'article pour les auditeurs que ça intéresse sur cpu.pm. C'est CPU, l'émission carré, petit, utile, et nous sommes au Capitole du Libre avec Adrien Van Den Bosch et Nicolas Gonzalez pour parler de la localisation d'objets en intérieur. L'ultra-wideband, c'est relativement nouveau, c'est expérimental. Vous l'expérimentez, vous le testez en labo. Quand est-ce qu'on peut espérer le voir utilisé par le grand public ? Quand est-ce qu'on peut le voir dans nos smartphones, par exemple ?
Alors, l'ultra-wideband, c'est une technologie qui est très ancienne, parce qu'elle a été initialement développée par l'armée américaine. C'est une transmission impulsionnelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des impulsions qui sont transmises les unes à la suite des autres, à haut débit. Et c'est parce que ce sont des impulsions qu'on peut matérialiser ce temps de vol de façon assez simple. C'est une technologie qui arrive tout doucement dans le grand public. On a un constructeur qui fabrique ses composants depuis quelques années maintenant. Et la bonne nouvelle assez récente, c'est que Apple intégrera la technologie Ultra Wideband dans le prochain iPhone. Et donc, on imagine qu'Apple va décliner toute une série de solutions technologiques et de produits pour pouvoir faire de la géoloc indoor à partir d'un iPhone. Et puis on imagine que Samsung va faire ça dans la foulée, et donc tous les téléphones Android auront ça d'ici 2-3 ans peut-être.
Quels usages et quelle utilité peuvent trouver les entreprises dans cette technologie? Je pense qu'on parle beaucoup en ce moment d'usines connectées, peut-être de localisation de colis, de choses comme ça. Quels sont les usages pour lesquels les entreprises ont peut-être déjà contacté, ou pour lesquels les usages qu'on envisage pour les entreprises?
On est en lien avec beaucoup d'entreprises parce que c'est un sujet aujourd'hui. L'internet des objets d'un côté et la localisation de l'autre sont deux sujets qui intéressent beaucoup d'industriels. Quels sont les besoins qu'on a reçus de leur part? C'est essentiellement les entreprises qui ont beaucoup de matériel et qui perdent du matériel. On a des entreprises qui perdent du petit matériel, comme des outils, des tournevis, des caisses, des colis, etc. Et on a des entreprises qui perdent des matériels un peu plus gros, comme des tuyaux, des torrons de câbles ou des avions. Voilà, c'est vrai. Je ne citerai aucune entreprise. Donc ces technologies d'objets connectés et de localisation sont très importantes pour eux. Tout simplement parce que c'est de l'argent gagné, parce qu'ils ont envie d'arrêter de perdre tous ces matériels-là. Donc c'est là où je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'ils, dans ce cadre-là, qu'ils définissent qu'est-ce que pour eux la localisation. C'est-à-dire, est-ce que c'est savoir mon avion dans quel atelier il est actuellement? Est-ce que c'est savoir est-ce que mon tuyau il est sur tel chantier? Voilà. Et en fait, ça va définir tout un tas de choses. Par exemple, des objets qui sont toujours en extérieur. Peut-être qu'une petite radio LoRa qui émet des messages à très longue distance et un petit module GPS qui va allumer une fois par jour, par exemple, j'allume, je récupère une position, je la transmets, je m'endors. Peut-être que ce cas d'usage est parfait pour ces personnes-là. Pour des avions, par exemple, qui doivent être localisés en extérieur et en intérieur, là, on voit des problématiques où peut-être il va falloir passer sur du multi-technologie. Avoir une technologie qui sera adaptée en extérieur, avoir une technologie qui sera adaptée en intérieur, et bien sûr être capable de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est des thématiques aussi qui nous intéressent, bien évidemment. C'est dans un monde, on est dans un monde en fait où on a plein de technologies qui répondent à des cas d'usage et qui ont des indices de performance, etc., qui sont très différents les unes des autres. Et les applications sont de plus en plus complexes, et ça passe souvent par de la multi-technologie, de prendre plusieurs moyens, plusieurs techniques, et d'essayer de récupérer le meilleur de chacun au bon moment.
Avec cette technologie, quels sont les risques pour la vie privée? À partir du moment où on peut localiser un téléphone, où on peut localiser un objet précisément dans un espace indoor, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui serait surveillé chez lui par la police pour savoir quelle est la meilleure heure pour faire une perquisition? Ou le cas de salariés, effectivement, qui seraient traqués sur leur lieu de travail pour savoir combien de temps ils passent aux toilettes?
Bien évidemment qu'il y a énormément d'enjeux de vie privée derrière les objets connectés, on va dire, pas que sur la localisation, les objets connectés en général, parce qu'ils collectent de l'information. Et si on fait le lien entre une personne et une information, on collecte des données dites privées et on rentre dans des problématiques de vie privée. Je vais peut-être rentrer un peu plus en détail sur la partie entreprise. On peut se poser la question, pourquoi l'Internet des objets et pourquoi la localisation intéresse énormément les entreprises? C'est dans une vision qui est beaucoup plus long terme, on va dire, de maîtrise de tout ce que une entreprise fait. Et ça vient aussi d'une réflexion un peu plus globale, de se dire, à partir du moment où j'ai des données sur ce que je fais, je suis capable d'optimiser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est un domaine assez complexe. L'Internet, l'intelligence artificielle rentre dans ce délire-là aussi. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que quand il y a des humains qui sont dans la boucle, des humains qui ont des problèmes complexes, avec des données, on va peut-être pas pouvoir comprendre ça. Et si on base nos décisions que sur des données, on va faire des décisions qui seront à mon sens, probablement très loin de décisions qui prennent en considération l'humain. Voilà. Donc c'est en ça qu'il faut faire très attention sur ces données de vie privée. Après, au niveau institutionnel, on est quand même dans une démarche avec la CNIL, etc., de prise en compte de cette vie privée, de prise en compte des données à caractère privé. Donc il faut continuer dans cette direction-là, et bien sûr, il faut intégrer les objets connectés dans cette démarche-là.
Oui, je rejoins ce que Nico vient de dire. C'est vrai qu'en Europe, on a quand même une législation qui est pas mal de ce point de vue-là. Il faut essayer de la conserver, de la travailler, de l'améliorer, mais elle est quand même globalement assez protectrice pour l'usager au final par rapport à d'autres pays. C'est rien de le dire. Oui, effectivement, je dirais que c'est une problématique qui dépasse largement la thématique de la localisation des objets connectés. C'est la problématique de l'éthique dans le stockage des données dans l'IoT, dans l'Internet des objets. Et il faut bien avoir en tête que c'est les données qui sont collectées, il faut les stocker dans des endroits qui soient suffisamment sécures, qui soient suffisamment dignes de confiance. Si la donnée peut ne pas partir, je parlais de l'habitat intelligent tout à l'heure, si la donnée peut rester locale à la maison, rester stockée dans un serveur, dans une box, dans un micro-serveur qui serait localement à la maison, c'est déjà pas mal, parce que comme ça, elle sort pas de la maison. Et puis si elle peut rester sur les territoires français ou le territoire européen, c'est aussi très bien, parce que du coup, elle bénéficie de cette législation qui est relativement protectrice pour l'usager. Si elle sort et qu'elle part dans un stockage à l'étranger, aux États-Unis par exemple, où le Patriot Act autorise n'importe qui à venir chercher des informations pour des questions avec un motif de défense et de protection du territoire, forcément, ça autorise un petit peu tout et n'importe quoi.
Les objets connectés, c'est très prometteur, mais ça génère beaucoup de petits appareils électroniques. Quelle est leur durée de vie et est-ce que ça risque pas de devenir très vite des petits objets très polluants ?
La réponse est oui, ça va devenir des déchets polluants, c'est à peu près sûr. La durée de vie de ces objets, elle peut être envisagée à deux niveaux. Un premier niveau, on en a parlé tout à l'heure sur l'autonomie énergétique, c'est-à-dire compte tenu de la taille de la batterie, etc., eh bien on va pouvoir faire un objet qui va durer pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années peut-être, sans être rechargé. Si on est capable de le recharger parce que le constructeur a prévu une prise ou a prévu une petite trappe pour changer la pile, la durée de vie va être un petit peu plus longue, ce qui est pas plus mal. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a plein de petits tags qu'on met sur les porte-clés par exemple aujourd'hui pour repérer le porte-clés avec une application Bluetooth installée sur le téléphone qui sont pas rechargeables, et le constructeur annonce de façon tout à fait ouverte que on pourra pas changer la pile, il a une durée de vie d'à peu près une année, et lorsque la batterie est épuisée, il faut le changer. Et il nous offre un coupon de 30% pour en acheter un autre. Mais c'est quand même assez dramatique d'un point de vue écologique. Il y a aussi, et c'est souvent le cas, le problème en réseau, il y a l'obsolescence de la technologie réseau, qui est pas forcément simple à maintenir. Et là, je dirais qu'il y a deux bonnes solutions. Les standards, d'une part, c'est-à-dire essayer de ne pas avoir une application propriétaire, c'est-à-dire qui va rester conforme à un standard qui va permettre de garantir une compatibilité dans 2, 3, 4, 5 versions, et de rester et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les vieux appareils Wi-Fi qu'on a, mine de rien, ils restent toujours compatibles avec les réseaux Wi-Fi d'aujourd'hui, à la problématique de la clé WPA, la clé de chiffrement près. On est au Capitole du Libre, donc le logiciel libre et la possibilité de faire évoluer les systèmes logiciels qui tournent sur l'objet lui-même, et pouvoir faire en sorte que si moi je vends une flottille d'objets connectés pour faire de la géolocalisation qui sont liés à mon serveur, et le jour où mon entreprise coule, mon serveur il coule aussi, et donc mes objets connectés sont plus utilisables, c'est dommage. Il faut arriver à donner la main, à rendre la main à l'usager qui lui a payé pour avoir ces objets connectés et pouvoir continuer à les utiliser alors que mon serveur n'est plus disponible.
Sur ce sujet, on a déjà fait une émission sur le Nabastag et effectivement la fin de maintenance officielle et le fait que derrière des personnes aient relancé un serveur, relancé des applicatifs mis à jour.
Je rejoins Adrien sur du coup sur ces problématiques de pollution des objets connectés. Ce que je voulais ajouter, c'était sur le fait, je parlais tout à l'heure de cette politique de vouloir collecter des données assez massivement dans les entreprises essentiellement à but de faire de l'intelligence artificielle plus tard. Aujourd'hui, la doctrine, c'est de dire avec l'intelligence artificielle, si on collecte beaucoup de données, on arrivera à faire de l'intelligence, à trouver des liens, à trouver tout un tas de choses, à optimiser les choses. Donc les politiques actuelles, c'est de dire dans les entreprises, collectons un maximum de données et demain, on arrivera à les monétiser. Donc les politiques qui sont poussées par le haut dans les entreprises actuellement, c'est collecter de la donnée. Alors c'est facile de collecter de la donnée quand on a des formulaires, quand on a des rapports, quand on a des choses qui sont déjà numérisées, qu'on a déjà fait le travail de collecte et que c'est un travail de collecte facile parce que c'est des applications, c'est des documents numérisés. Quand c'est des industriels, collecter de la donnée, c'est beaucoup plus compliqué et parce que c'est un déploiement d'objets qui coûte cher en eux-mêmes, mais qui coûte surtout cher à déployer. Et c'est des objets voilà, qui, comme on l'a dit, polluent. Et donc si on commence à être dans une démarche de toutes les mesures que je peux avoir dans mon entreprise, je vais les collecter sans trop réfléchir et on verra demain comment les monétiser. On va être dans une démarche de déployer tout un tas de capteurs, tout un tas de matériel sans trop réfléchir à la va-vite. Et ces matériels, demain, quand on va s'apercevoir que la désillusion de l'intelligence artificielle où on n'arrivera peut-être pas à récupérer et à monétiser ces données-là, c'est tout un tas de capteurs qu'on va jeter à la poubelle. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était... Avant de vous lancer dans ces démarches de déploiement d'une flotte de tout un tas d'objets connectés, réfléchissez vraiment à quelles données vous voulez récupérer et à avoir une vision long terme et pas juste d'être dans l'espérance et dans les croyances qu'on peut avoir actuellement sur l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup Adrien Vandenbosch, Nicolas Gonzalez, merci.